Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Ces derniers mois, nous n'avons sans doute jamais été aussi attentifs à notre santé respiratoire. Les quintes de toux ne passent plus vraiment inaperçues en cette période d'épidémie de Covid-19, car ce sont bel et bien les symptômes au niveau de nos poumons, comme les épisodes de détresse respiratoire, qui sont l'une des principales causes d'hospitalisation associées aux complications de cette infection à coronavirus. Et si le Covid-19 concentre aujourd'hui l'essentiel de l'attention de la population, comme des services sanitaires et des autorités publiques, d'autres maladies respiratoires restent encore assez méconnues et sous-diagnostiquées. C'est le cas de la BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, qui touche dans un pays comme la France 3,5 millions de personnes. Une maladie qui ne se guérit pas, mais dont l'évolution peut être freinée. D'où l'importance d'un diagnostic précoce pour une prise en charge qui limite la sévérité des atteintes. Reconnaître les symptômes de la BPCO, qui peuvent être confondus avec d'autres pathologies respiratoires. Changer certaines habitudes en premier lieu. Arrêter le tabac si l'on est fumeur. Prendre régulièrement son traitement. Améliorer aussi la qualité de l'air que l'on respire. Prévention et prise en charge de la BPCO, on en parle aujourd'hui dans Priorité Santé. Et sensibilisation pour mieux faire connaître cette maladie chronique, sensibilisation au cœur de l'activité de la Fondation du Souffle que vous présidez, professeur Bruno Husset. Bonjour. Bruno Husset avec nous, bonjour. On va vous joindre dans quelques secondes, professeur. Vous exercez la pneumologie et vous enseignez à la faculté de médecine de Créteil. Une maladie respiratoire qui peut avoir un retentissement très important sur la qualité de vie. En ligne avec nous, Anne-Marie Sabag, bonjour.
Oui, bonjour Caroline, bonjour tout le monde.
Vous êtes patiente atteinte d'une BPCO de stade 3 et vous nous expliquerez ce que la maladie a changé dans votre quotidien. Mieux faire connaître cette maladie, c'est également la mission que s'est fixée Eric Salone, fondateur de l'association Josiane Salone, tous unis contre la BPCO, maladie respiratoire. Et cette tendance au sous-diagnostic, également observée dans un pays comme la République démocratique du Congo, on donnera la parole au professeur Jean-Marie Kayembe, chef du service de pneumologie aux cliniques universitaires de Kinshasa.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Bruno Husset, quand on parle de 3 500 000 personnes touchées par une BPCO en France, on perçoit d'emblée le fossé entre la réalité du risque, la fréquence des atteintes, ce degré de méconnaissance qui entoure la maladie respiratoire. Alors comment l'expliquer? Pourquoi finalement connaît-on si mal, professeur, cette maladie?
C'est une maladie qui est silencieuse en fait initialement. Elle a très peu de symptômes, ça se voit surtout chez des sujets fumeurs. Et donc le fumeur a tendance à banaliser ses symptômes. Oui, s'il tousse, s'il crache, il dit que c'est normal, je fume. Si je suis essoufflé, c'est aussi parce que je vieillis. Et donc vous voyez, il y a une banalisation des symptômes, il n'y a pas suffisamment de mesure du souffle qui est le seul élément qui permet d'affirmer l'obstruction bronchique.
Alors dans l'actualité, bien sûr, un virus dont les complications touchent là aussi parfois les voies respiratoires, le Covid-19. Est-ce que le fait, professeur, d'être atteint de BPCO aggrave ce risque, ou en tout cas les risques associés à la pandémie actuelle? Est-ce qu'on parle, comme on l'entend dans les médias, comme les médecins le disent, dans leur jargon, d'un risque accru associé à une comorbidité? Ça veut dire simplement, est-ce qu'on est plus vulnérable?
Absolument. Les BPCO, donc il y a eu plusieurs travaux qui ont été publiés et qui montrent que quand on a une BPCO, on est plus à risque d'une maladie sévère. Peut-être qu'on n'est pas plus à risque d'être infecté, vous voyez, qu'on n'est pas plus susceptible au virus. Mais une fois qu'on a l'infection, on risque de faire une forme plus sévère. Et la raison, c'est que la BPCO elle-même est associée à d'autres maladies, ce qu'on appelle effectivement des comorbidités, notamment cardiologiques, et qui peuvent aggraver encore la situation. Et c'est pour ça que les sujets BPCO font des formes plus sévères avec un plus de risque d'hospitalisation, de passage en réanimation.
Et pourtant, on va donner tout à l'heure la parole à une patiente pour bien comprendre ce qu'elle vit avec cette maladie. Professeur Bruno Housset, cette question de la sensibilisation, c'est d'autant plus important qu'une fois averti, une fois prise en charge, on peut freiner l'évolution.
Absolument. On ne dispose pas actuellement de traitements qui permettent de guérir de la BPCO, mais le point important, c'est d'arrêter l'évolution de cette maladie. Et pour arrêter cette évolution, il y a des mesures à prendre, en particulier sur la soustraction aux risques extérieurs de l'environnement. Le premier, c'est le tabagisme. Il faut réduire et arrêter le tabagisme. Et puis, il faut se soustraire à d'autres polluants dont on reparlera probablement.
On va en reparler effectivement dans notre environnement. J'ai parlé justement de cette évolution, retarder l'aggravation et éviter de passer d'une BPCO légère, on va dire, stade 1, à une atteinte d'une grande sévérité, stade 4. Qu'est-ce qui marque justement le passage d'un palier à l'autre ?
En fait, là, c'est aussi des mesures que l'on peut faire de la fonction respiratoire, et plus la maladie va évoluer, plus on va avoir une aggravation de ce qu'on appelle la fonction respiratoire. Donc, on vous fait souffler dans un appareil pour savoir quel est l'état de vos poumons. On peut aussi grader ça en fonction de l'essoufflement, c'est-à-dire de ce qu'on appelle aussi la dyspnée. Mais cet essoufflement est quelque chose qui va s'aggraver progressivement, et c'est ça qui caractérise en fait cette maladie. Donc plus vous êtes essoufflé pour les efforts de moins en moins importants, plus la maladie va être grave.
Anne-Marie Assabac, je citais tout à l'heure les différents stades qui reflètent la gravité, la sévérité de cette maladie, la BPCO. Pour votre part, madame, quand est-ce que vous avez été diagnostiquée? Et peut-être surtout, comment cette maladie a-t-elle évolué?
Alors, j'ai été diagnostiquée en 1999.
Oui.
Et elle a beaucoup évolué. Et depuis 2 ans et demi, je m'estime très handicapée.
Est-ce qu'on a justement quantifié le stade de votre maladie? Vous êtes à quel niveau aujourd'hui?
Alors, je suis stade 3. Mm-hmm. Ça dépend de la spirométrie, c'est comme ça que le médecin définit le stade. Et stade 4 en exacerbation, quand ça s'aggrave.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il vous arrive, Madame Sabag, d'avoir le souffle complètement coupé?
Alors d'abord, dès que je suis à l'effort, j'ai l'impression de ne plus avoir de respiration inconsciente, c'est-à-dire que je souffle. Je ne peux plus parler quand je me promène avec quelqu'un. Quand j'arrive devant un magasin, je m'arrête pour pouvoir m'exprimer quand j'arrive à l'intérieur. Il faut que je fasse attention à tous mes efforts, en fait. Et pourtant, les efforts sont très importants pour éviter l'évolution. Mais la marche est très, très pénible, même si je fais 20 minutes tous les jours de marche.
En quoi consiste votre prise en charge aujourd'hui?
Alors, j'ai un traitement Perros et j'ai un traitement en aérosol et des visites régulières chez la pneumologue et l'exercice physique le plus possible.
Quand vous dites un traitement Perros, il s'agit de quoi précisément?
Des médicaments, des comprimés.
Ça fait beaucoup de comprimés par jour?
Non. J'ai juste un comprimé Ultibro le matin que je trouve très bien et des aérosols que je peux moduler. En général, j'en ai besoin de 3.
Et à côté de ces traitements, vous êtes engagée, Anne-Marie Sabag, dans une activité associative. De quoi s'agit-il?
Alors voilà, j'ai eu une grande chance d'être adressée au réseau Récupère, qui est financé à 100% par l'ARS en 2014, mm-hmm. pour un stage de réhabilitation respiratoire qui est très important, mm-hmm. et qui est un véritable cadeau. On est très très bien entourés.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous réapprend à respirer, à faire face un petit peu à ce souffle court dans des situations pour... Parce que j'imagine, quand on n'a plus de souffle comme ça, il y a des cas où on doit être presque en état de panique.
Oui, on a l'impression de se noyer. Mmh. Alors, le réseau Récupère, alors ça consiste en 30 séances de kinésithérapie, mmh. sur à peu près 2 à 3 mois, avec une éducation thérapeutique à la fois par le kiné, mmh. et aussi par des entretiens avec diététicienne ou psychologue.
Mmh. Et ça vous a aidé vraiment?
Ah oui, absolument. Et après, le réseau Récupère a financé des activités pour le maintien des acquis, d'où il reste, par exemple, des groupes de parole mensuels entre les malades, plus des ateliers thérapeutiques, d'éducation thérapeutique.
Et c'est une activité que vous poursuivez aujourd'hui?
Ah oui, régulièrement, et qui est vraiment presque indispensable, parce qu'il n'y a qu'entre nous qu'on peut vraiment comprendre. Mmh. C'est vrai qu'elle est mal connue, cette maladie, et les gens ne la comprennent pas bien. Mmh. Par exemple, je souffle, et bien, chez la bouchère, elle a cru que c'est une impatience.
Tout à fait. Donc, il y a une interprétation de certains symptômes. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez lui dire « j'ai un problème de souffle, madame » ou vous allez garder, vous allez taire cela?
Non, j'ai rien fait parce qu'il y avait du monde dans la boutique. Mmh. Alors, je n'ai pas expliqué. De même que maintenant, je suis assez souvent interpellée ou dans le métro ou dans les magasins en disant « madame, vous ne respirez pas bien, est-ce qu'on peut quelque chose pour vous ?» Mmh. Et en fait, on ne peut rien pour moi, on ne peut même pas me donner le bras parce que, en fait, ce qu'il me faut, c'est un poumon.
Et ça, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que dans le contexte actuel, hein, le contexte de crise, et puis votre âge, hein, vous avez un âge assez avancé, on peut le dire à l'antenne, vous avez quel âge ?
77 ans.
Donc vous avez 77 ans, vous avez éprouvé des craintes particulières. On sait qu'il y a le risque de l'âge, hein, ça pour toutes les personnes en bonne ou en mauvaise santé. Vous avez en plus cette maladie respiratoire. Vous êtes allé voir votre médecin pour lui poser la question, qu'est-ce que je dois faire ? Comment je fais ?
Alors, on a eu un entretien en visioconférence. Non, moi, pour moi, j'avais truc en tête, ne pas aller chez le généraliste mmh. et ne pas aller à l'hôpital parce que j'étais sûre de ne pas être sélectionnée pour la réanimation. Mmh. Donc, j'ai fait vraiment très attention. Mmh. Mais j'avais pas si peur que ça. Mais j'ai fait quand même très attention, de même que ça recommençait maintenant avec le nouveau confinement, à faire quand même très attention. Donc, j'ai évité le métro. Mmh. J'ai pris l'autobus si nécessaire, mais je me suis surtout confinée dans mon quartier, quoi. Mmh.
Je vais vous reposer une petite question. Je me tourne vers le professeur Bruno Housset. On disait tout à l'heure risque accru, mais peut-être pour les patients qui ont conscience des risques associés à leur maladie, prudence accrue déjà naturellement pour ces personnes.
Ça, c'est très clair. Hein. Il faut effectivement faire très attention et appliquer toutes les mesures barrières qui sont conseillées. Donc, c'est extrêmement important de prendre toutes les précautions pour ne pas se faire infecter.
Anne-Marie Sabac, vous étiez fumeuse il y a quelques années. Quand est-ce que vous avez cessé ?
En 2013.
Ça veut dire que vous avez fumé encore après le diagnostic ?
14 ans, encore 14 ans, oui.
Comment est-ce que vous regardez cela, cette dépendance très importante ? Pourquoi il vous manquait quoi ? Les moyens pour arrêter ou vous n'étiez pas encore prête ou vous avez essayé et rechuté ?
Alors, c'est pas du tabac qu'il faut traiter. Il faut savoir pourquoi les gens sont dépendants.
Tout à fait.
Ça vient d'une anxiété. Mmh. Et c'était l'anxiété que, en fait, j'ai pas été en prise en charge sur l'anxiété et donc on fume. Et j'étais vraiment très dépendante. Hein. Mmh. Mais j'ai pu arrêter grâce à ma cardiologue, mais vraiment, et à la cigarette électronique en 15 jours.
En 15 jours. Et aujourd'hui, est-ce que ça vous a soulagé de pouvoir arrêter justement ? Est-ce que vous aviez l'impression, d'une certaine manière, que vous étiez en train d'aggraver votre cas ?
Non, j'ai jamais eu l'impression d'aggraver mon cas. Je pense qu'il y avait un déni de la maladie. Mmh. Et je me disais, quand je vais arrêter, ça va s'arrêter, ma gêne respiratoire. Mmh. J'ai pas du tout voulu prendre conscience qu'il y avait quelque chose de chronique.
Et il n'y a pas eu justement une attitude moralisatrice ou culpabilisante de la part de vos soignants ? Vous n'avez pas subi cela ?
De toute façon, à partir d'un moment, oui, on a été culpabilisé par le tabac, hein, mm-hmm. c'est vrai, mais je dois dire que quand on est dépendant, ça n'a aucune importance. C'est ça le problème.
Mm-hmm. On continue parce qu'on est vraiment dans ce cercle infernal. Ouais. Aujourd'hui, vous vous soignez, vous êtes libérée du tabac, vous vous sentez comment ?
Eh bien, je me sens comme avec quelqu'un avec une maladie chronique mm-hmm. que j'estime assez évolutive, en fait, malgré tous les traitements et les efforts physiques. Mm. Enfin, moi, pour moi, c'est mon expérience.
Merci beaucoup Anne-Marie Sabac pour ce témoignage. On vous retrouve professeur Bruno Housset. Bien sûr, le tabac, on ne limite pas cette maladie à une maladie du tabac, mais quand même, on insiste sur l'accompagnement absolument nécessaire et qui existe en France. C'est important de le dire, pour arrêter de fumer, c'est pas le cas partout dans le monde, sans juger, sans culpabiliser.
Absolument, il y a des centres d'aide au sevrage tabagique qui sont très efficaces. Mais le point important, c'est de faire la démarche dans sa tête, de vouloir mmh. arrêter. Mmh. C'est ce qu'évoquait Mme Sebag à l'instant. C'est qu'il faut vraiment avoir l'intention d'arrêter et de se faire aider pour arrêter. Mais le pas difficile, c'est de décider d'arrêter.
Alors justement, on entendait ce témoignage. Beaucoup de fumeurs, vous le disiez aussi tout à l'heure, disent, bah, écoutez, si j'ai le souffle un peu court, c'est simplement parce que je fume. Non, ça peut être un symptôme. Professeur Bruno Housset, pour revenir sur ces symptômes précis, si on en faisait la liste de quelques-uns, je réunis quels critères pour me dire, ah, c'est peut-être une BPCO?
Le fait d'être essoufflé, ça c'est le symptôme clé de la BPCO, c'est l'essoufflement à l'exercice. Et quand on fait de l'exercice, se dire bah c'est pas normal, ceux avec qui je fais d'habitude une promenade ou de la course font mieux que moi, pourquoi je suis moins bien? Et donc à ce moment-là de faire une mesure du souffle. La toux et l'expectoration sont aussi des symptômes qui doivent éventuellement conduire à faire une mesure du souffle. Et le fait de faire plusieurs bronchites à répétition dans l'année, sont aussi des éléments qui doivent conduire à vérifier son souffle.
Alors, on le souligne depuis le début de cette émission, hein, cette maladie n'est pas forcément bien connue du grand public. C'est d'ailleurs votre cas, hein, Roch, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous vivez à Kinshasa, en RDC. Vous avez justement des questions à poser au professeur Bruno Housset par rapport à certains symptômes que vous ressentez. Alors, racontez-nous.
Je commence d'abord pour dire que dans ma vie active avant de ressentir ces effets, j'ai pratiqué plusieurs activités, entre autres du sport, faire de la musique classique par exemple. Mais ça fait pratiquement 9 ans que j'ai commencé à ressentir des problèmes un peu d'essoufflement, tout ça. Ça me mettait un peu mal à l'aise. Mm-hmm. Je suis allé en consultation dans plus ou moins 2 ou 3 autres hôpitaux majeurs de la capitale. On m'a prescrivait quelques antibiotiques, mais il n'y avait pas toujours des changements. Alors, le médecin m'avait suggéré de pouvoir prendre certaines habitudes, entre autres, éviter être dans un milieu trop pollué, parce qu'en fait, je ne soutiens pas tellement trop longtemps à me tenir dans un espace qui est pollué. La fumée, même du carburant, par exemple, une station essence, il m'avait suggéré si possible de me déplacer. C'est alors que je m'étais déplacé, déménagé pour 50 km du centre-ville. Mmh. Bon, l'endroit semblait être un peu calme, mais il y a d'autres habitudes que j'ai pu trouver sur place qui ont essayé d'accentuer un peu mon cas. Donc, des techniques un peu traditionnelles pour faire du braise, où on prend des bois morts, on creuse un trou, on les place à l'intérieur, on le brûle. On laisse quelques espaces où le fumée peut sortir. Et ce fait-là peut prendre même des semaines ou 10 jours.
Mmh. Alors, mais ce feu, il est fait en plein air ou il est fait à l'intérieur?
Bon, dans les parcelles. Hein,
dans les parcelles, donc dans la cour souvent. C'est dans la cour.
Oui, parfois derrière la maison, derrière leur maison. Alors, en tant que des voisins, l'environnement, tout cela nous parvient. Et ces fumées-là qui avaient essayé un tout petit peu de m'enfoncer un peu davantage, parce que je peux faire même 3 semaines où j'ai de tels problèmes de respiration, tout ça sans pour autant tenir. Donc, je pouvais respirer 1/3, donc je n'avais pas une respiration normale. Et des fois, des insomnies, c'était trop fort, surtout quand c'est la nuit. Alors,
on vous a donné des médicaments?
Oui, on m'a fait prescrire des médicaments. Alors, en 2015, il y avait une campagne de médecins saoudiens, une campagne de charité avec des consultations gratuites de certaines maladies. Mm-hmm. Alors, j'étais allé aussi me faire consulter pour ces cas. Et au finish, quand j'avais expliqué au médecin, il m'avait dit que ça pourrait être la bronchopneumonie chronique. Mm-hmm. Déjà, j'avais des découragements pour essayer de suivre le traitement parce que je n'étais pas satisfait par rapport auparavant avec les autres spécialistes que j'avais rencontrés.
Parce qu'on vous a donné des diagnostics et vous n'étiez pas content de ce diagnostic. Tout à l'heure, vous disiez, ça fait 9 ans que vous ressentez ces symptômes. Vous ne l'avez pas précisé, vous êtes jeune, hein, Roch, vous avez 29 ans seulement. Bien sûr, on ne fait jamais de diagnostic par téléphone, hein, ce n'est pas du tout l'objet de cette émission. En tout cas, est-ce que les éléments qu'apporte Roch, professeur Bruno Housset, respiration courte, un environnement pollué, avec ces fumées associées au charbon de bois, Roch qui recherche donc un diagnostic, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre?
Évidemment, comme vous le dites, on fait pas de diagnostic par téléphone. Le point important, c'est que j'ai pas la notion que Roch est fumé.
Il précise, Roch, vous n'avez jamais été fumeur. Hein.
Non, madame, ni l'alcool.
Ni l'alcool. Et en tout cas, il n'y a pas de rapport, mais en tout cas, une question importante, parce que dans beaucoup de foyers, il y a le feu de bois, y compris des cuisinières à bois à l'intérieur, avec des émanations donc dans les intérieurs. Là, c'est à l'extérieur. Ça peut quand même impacter le souffle, professeur Rousset?
Ah oui, tout à fait. Ça a été bien montré que les foyers ouverts à l'intérieur des maisons sont génératrices de fumée qui sont une cause possible de BPCO. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Non, l'autre point, c'est que Rock effectivement est jeune. Il décrit un début il y a une dizaine d'années, et donc c'est pas l'âge habituel de la BPCO. Mmh. Donc ça fait penser que peut-être il a eu pendant son enfance éventuellement peut-être soit de l'asthme, soit des affections respiratoires sévères, ou que ses parents étaient éventuellement fumeurs. Y a des éléments, et ça c'est nouveau dans la connaissance de la maladie, qui dans la petite enfance peuvent éventuellement influer la survenue d'une BPCO à l'âge adulte.
Est-ce que vous aviez souvent des maladies des poumons, du mal à respirer quand vous étiez petit, Rock?
Jamais, madame, parce que depuis mon enfance, j'adorais toujours faire les arts martiaux, hein, tout était ok. Donc comme je vous ai dit, il y a pratiquement 9 ans où on m'avait conseillé d'arrêter avec des activités qui demandent un peu trop de souffle et puis des activités physiques. Donc, j'ai pu faire le marathon, mais courir, j'ai pu les faire, mais ils m'ont dit que c'est quand même un risque et je ne pouvais pas.
Professeur Bruno, c'est sur ce plan, c'est important de répondre à Rock. S'il a justement des problèmes de souffle, est-ce que pour autant, il doit arrêter toute activité physique?
La réponse est non. La réponse est non. Il faut d'abord faire un diagnostic. Et donc, le point important, c'est qu'il faut mesurer son souffle. Il faut que Rock fasse une spirométrie, fasse une mesure du souffle pour savoir s'il y a une atteinte et quel type d'atteinte il peut avoir. Est-ce que cette atteinte peut être réversible ou pas? Donc ça, ce sont les éléments qui sont extrêmement importants à faire avant de discuter d'autres choses.
Et d'ailleurs, tout à l'heure, on aura le professeur Kayembe en ligne de Kinshasa. Très certainement, auprès d'un établissement comme le sien, vous pourriez faire justement cette analyse. Rock, on vous souhaite une excellente journée à Kinshasa. On le disait, hein, le tabac qui est pointé du doigt, il y a également l'air qu'on respire, qui est incriminé dans les liens potentiels avec la BPCO, y compris quand on est non-fumeur. Professeur Bruno Housset, faire attention aussi à tous ces produits qui entrent dans la composition de ce qui fait notre décoration, notre habitat, et toujours l'importance de respirer un air le plus pur possible, même si c'est pas évident, surtout quand on vit en ville.
Absolument. Donc ça, la pollution automobile, il faut essayer de l'éliminer le plus possible. Mais à l'intérieur des maisons, comme vous le dites, l'utilisation de produits ménagers, notamment des produits en spray, sont connus pour aggraver l'inflammation des bronches et contribuer éventuellement à l'aggravation d'une BPCO.
Professeur,
on a pas la notion que ça puisse générer une BPCO.
Mais l'aggraver.
Oui.
Professeur Rousset, vous restez avec nous. On va marquer une pause musicale avant d'échanger avec nos autres invités. Tout de suite sur RFI, FM Letty avec Rise the Sun.
Touching the sky, my day seems a bit brighter now. Taking a flight, feels so right. Don't tell me this is just a plan. In the scheme of things, I'm seeing it all clearer now.
to fade away in the scheme of things. I know they're sure to stay at bay.
Priorité en santé sur RFI, lutte contre la BPCO, préserver son souffle. Nous sommes toujours en compagnie du professeur Bruno Housset, président de la Fondation du Souffle, avec ce mot d'ordre aéré, hein, recommandation pour préserver la qualité de l'air. D'ailleurs, recommandation valable également pour la prévention du Covid-19. Mieux cerner les symptômes de cette maladie respiratoire chronique. Professeur Bruno Housset, par exemple, distinguer la BPCO des autres atteintes des voies respiratoires. Une autre en particulier, vous avez cité tout à l'heure son nom, atteinte chronique également, l'asthme. Est-ce qu'il y a souvent confusion entre les deux ?
Il peut y avoir, mais encore une fois, la spirométrie, c'est sur les symptômes, hein, essentiellement qu'on peut se fonder. Et puis, sur la spirométrie, je parlais de réversibilité. Une des caractéristiques de l'asthme, c'est que l'obstruction bronchique est réversible. Mmh. Et donc les symptômes sont plus des sifflements qui viennent par crise. Et puis, il y a cette réversibilité sur la fonction respiratoire qui est impérativement à réaliser.
Et ça nous renvoie à cette question Facebook qui a été postée par Nelly qui vit à Yaoundé au Cameroun. Je vous lis son message, hein, professeur Housset, si vous le voulez bien. Pendant mon enfance, j'ai eu de légers problèmes respiratoires. Il y a quelques mois, on m'a diagnostiqué une pneumopathie bilatérale diffuse. Ça faisait des mois que je travaillais dans un snack enfumé par les cigarettes. Après quelques semaines de traitement, j'y suis retournée en essayant d'être à l'abri de ces fumées. Mais depuis un moment, je me sens à nouveau mal. Et voilà la question de Nelly, professeur. Est-ce qu'une simple pneumonie peut évoluer vers une BPCO ?
Une pneumonie, normalement, n'évolue pas vers la BPCO. Ben, la BPCO peut éventuellement favoriser la survenue d'une pneumonie. Et donc, le point important, c'est d'en faire le diagnostic de la BPCO et encore une fois, de faire une mesure du souffle.
Donc, aller vers un centre qui est capable de faire cet examen particulier. Professeur Bruno Housset, on évoquait tout à l'heure l'évolution de la maladie. Ça veut dire qu'en fonction de la sévérité, la prise en charge va évoluer ou non ?
Effectivement, en fonction de la sévérité de la maladie, on va intensifier éventuellement le traitement médicamenteux. Mais le point extrêmement important, c'est le traitement non médicamenteux. C'est d'arrêter de fumer, c'est de se vacciner contre la grippe, éventuellement contre d'autres maladies infectieuses. Et s'il y a un vaccin anti-Covid, tant mieux, il faudra le faire pour se protéger de la maladie infectieuse. Et puis, avoir une hygiène de vie, c'est-à-dire faire de l'activité physique, c'est extrêmement important. Et Mme Sebag a bien insisté là-dessus. Le risque quand on est essoufflé, c'est de rester dans son fauteuil et de pas bouger parce qu'on est essoufflé justement quand on bouge. Mmh. Et donc l'intérêt de la réhabilitation, c'est de reprendre une activité physique, redonner des muscles et par ce biais de redonner de l'autonomie à la personne malade.
Alors on parlait tout à l'heure du tabac avec d'emblée la remarque sur ce qu'il faut éviter, les approches contre-productives comme avoir un discours qui porte un discours erroné sur cette maladie qui est assez méconnue. C'est important d'en parler, c'est important de sensibiliser le grand public. Et justement, on en parle avec vous, Eric Salonne, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Alors vous êtes le fondateur de l'association Josiane Salonne, tous unis contre la BPCO. Une précision, monsieur, Eric Salonne, Josiane, c'est le prénom de qui ?
Josiane est le prénom de ma mère et en fait, c'est malheureusement grâce à elle que je dois ma sensibilisation à cette maladie, puisqu'elle a été touchée par la BPCO, mais diagnostiquée très tardivement.
Et c'est ça justement qui vous a mené à conduire votre combat, hein, si on peut le dire ainsi, puisque vous plaidez pour un dépistage systématique, un petit peu au même titre que ce qui se passe pour quand on va chez le médecin, on fait un certain nombre de mesures, par exemple la tension artérielle, que ce soit aussi systématique.
Exactement, parce que la BPCO est vraiment une maladie silencieuse. Elle est méconnue des patients, méconnue des médecins. Et ce qui m'a incité à créer cette association et ensuite à faire une tribune auprès des députés de l'Assemblée nationale, tribune reprise d'ailleurs, c'est que lorsque j'ai évoqué le décès de ma maman dans mon entourage, personne ne connaissait la BPCO. Mm-hmm. Donc il y a eu la création de l'association et la mise en place de cette tribune parce qu'il faut impérativement que le geste de dépistage de la BPCO devienne systématique et qu'il soit inscrit dans la loi, parce qu'après c'est trop tard. Et on a omis de dire, on omet souvent de dire que la BPCO ne se guérit pas et qu'on en meurt dans des souffrances atroces.
Et pour vous, une journée par an de mobilisation, de sensibilisation, c'est insuffisant. Vous l'avez dit, vous êtes adressé aux parlementaires français. Pourquoi parler aux politiques de cette question de santé?
Alors, pourquoi parler aux politiques? C'est parce que le corps médical connaît la BPCO, bien entendu, mais ce n'est pas rentré dans le ce n'est pas rentré encore dans les mœurs. La BPCO n'est pas une maladie comme les autres, c'est une maladie inconnue. Donc, il faut vraiment que ça passe par la loi pour que chaque professionnel de santé informe les patients, notamment les patients à risque, de la BPCO pour qu'ils soient dépistés le plus tôt possible.
Et vous soulignez en particulier que cette maladie respiratoire, c'est votre constat, hein, concerne de plus en plus de femmes?
Cette maladie respiratoire concerne de plus en plus de femmes. Pourquoi? Parce que les femmes sont de plus en plus nombreuses à fumer et aussi physiologiquement un peu plus fragiles que les hommes. Donc c'est vraiment une maladie qui s'est féminisée.
Professeur Bruno Housset, vous confirmez cette tendance à la féminisation de cette maladie chronique?
Oui, absolument, je confirme et je dis, monsieur Salon, venez nous rejoindre à la Fondation, on est en train de se battre pour faire mieux connaître la BPCO. On a après-demain un colloque national sur la BPCO sous l'égide du ministère de la Santé, et donc on peut s'inscrire, n'hésitez pas à vous inscrire, vous pouvez vous inscrire sur le site de la Fondation, et on se bat pour que justement ce soit une maladie qui soit mieux connue, non seulement des patients, des médecins, mais aussi de nos élus, pour qu'ils favorisent la reconnaissance précoce, le dépistage de la maladie respiratoire. Par ailleurs, sur notre site, vous trouverez également le souffle-test, qui est un système qui permet d'évaluer sa santé respiratoire et qui peut sensibiliser encore davantage le grand public à ce problème du souffle.
Et on inscrira bien sûr l'adresse de différents sites concernés sur la page Facebook de l'émission Priorité Santé, donc qui permet aussi des rencontres. Merci beaucoup à Eric Salon et bonne merci continuation dans votre entreprise de sensibilisation si on y a pu y participer. Merci d'avoir participé à cette émission. Justement, ce test, professeur Bruno Housset, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qu'il contient comme question, comme repère?
Il vous pose des questions sur les différents symptômes que vous avez, sur les différentes expositions que vous avez pu avoir, et il vous conseille de ce point de vue.
Restez avec nous. Oui, allez-y.
Non, c'est un point important pour évaluer sa santé respiratoire et éventuellement aller en parler avec son médecin.
Parce que Eric Salon tout à l'heure disait sensibilisation aussi auprès des médecins, c'est justement le type de petite question qui prend, on va dire, quelques minutes et qui pourrait être déterminant pour une meilleure détection, un meilleur diagnostic précoce.
Absolument. L'important, c'est de savoir y penser et de poser les questions qui permettent éventuellement d'aller plus loin dans le diagnostic, oui.
Restez avec nous. On va partir tout de suite pour la République démocratique du Congo.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Et on a le plaisir de vous retrouver en ligne de Kinshasa, professeur Jean-Marie Kayembe. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de pneumologie aux cliniques universitaires de Kinshasa, doyen de la faculté de médecine, professeur Kayembe. On parle depuis le début de cette émission d'une maladie mal ou sous-évaluée dans un pays comme la France. Qu'est-ce qu'il en est dans un pays comme le vôtre?
Davantage mal évaluée. Mmh. D'abord parce que le diagnostic de cette affection nécessite de recourir notamment à des machines d'exploration respiratoire qui ne sont pas tout à fait disponibles dans notre pays à grande échelle. Mmh. Évidemment, les sociétés savantes ont fait l'effort d'accepter une définition qui repose notamment sur les symptômes et l'exposition au tabac, à la fumée domestique, etc. L'atout, la difficulté respiratoire peut permettre de s'en rapprocher, mais étant donné qu'elles sont pathognomoniques, la difficulté est encore plus importante et les professionnels de santé loin de comprendre exactement l'ampleur de cette pathologie chez nous.
Professeur Kayembe, quand on est dans une grande ville, une capitale comme Kinshasa, est-ce qu'il y a justement cette spirométrie, cet examen, cet appareil qui va permettre de diagnostiquer à coup sûr la BPCO ou c'est quelque chose qui est inaccessible?
Ben, c'est pas facilement accessible. Comme ça, de mémoire, je pourrais dire que sur une mégapole de plus de 60 millions d'habitants, nous avons tout au plus 3 à 4 spiromètres. Imaginez ce que cela peut faire pour pouvoir desservir toute la population. Il n'y en a pas beaucoup, l'accès est difficile. Nous insistons davantage sur l'approche. J'ai entendu le professeur Rousset tout à l'heure insister sur le type de gestionnaire disponibilisé. Mmh. C'est important pour nous et c'est des outils que nous attendons avec beaucoup de bonheur pour pouvoir dispenser la bonne nouvelle autour de nous, ou plutôt donc, la nouvelle d'information.
D'information, on le retrouve donc sur ce site de la Fondation du Souffle. Du côté des soignants, professeur Kayembe, est-ce qu'ils sont assez formés, assez avertis sur les caractéristiques particulières de cette maladie, on l'a compris, qui est évolutive?
Assez avertis, j'émets quelques doutes, quelques bémols, mais il nous appartient de les répéter régulièrement. Mmh. Regardez le tableau clinique qui ressemble très fort à celui de l'asthme, éventuellement. Mmh. Aujourd'hui, le Covid-19, on a la fièvre, bien sûr, qu'on n'a pas forcément dans la BPCO, mais on a la toux, on peut avoir la difficulté respiratoire. Et le Covid-19, aujourd'hui, accapare quasi l'attention de tous les professionnels de santé, en oubliant bien sûr ces maladies chroniques fortement invalidantes et qui évoluent et qui peuvent compromettre tout à fait la qualité de la vie de ceux qui en souffrent.
Donc faire un travail au niveau de la formation des soignants, sensibiliser le public.
Absolument.
Qu'est-ce qu'il en est au niveau de la recherche, puisque cette maladie, on l'a dit, il faut vraiment travailler dessus pour mieux la connaître, pour mieux en connaître les ressorts. Est-ce que beaucoup de chercheurs s'y intéressent ?
Je serai honnête en vous disant beaucoup non, mais quand même, les structures universitaires s'y intéressent. Nous avons, nous, à l'université de Kinshasa aujourd'hui, elle est très jeune, une unité notamment de génétique, qui s'intéresse un petit peu à ramasser les maladies infectieuses, les maladies chroniques que nous avons chez nous, en vue d'établir une certaine cartographie. Oui, quelques travaux de mémoire, de thèse, etc., sont terminés, achevés dans le domaine, mais encore une fois, et toujours quasi dans le milieu universitaire. La recherche est vraiment orpheline, nécessitant des moyens, et les moyens dont ne disposent quand même toujours pas les instituts de recherche ou d'enseignement universitaire.
Précisément, les pouvoirs publics. Est-ce qu'il y a des efforts particuliers à déployer pour la santé respiratoire, en particulier dans le cadre de la lutte contre la BPCO, mais forcément, quand on parle de santé respiratoire, aussi dans un pays comme le vôtre, on pense à la tuberculose. Est-ce qu'il faut faire davantage d'efforts, justement, pour le bien-être de notre respiration?
Absolument. Il nous appartient à nous, scientifiques, professionnels soignants, d'établir de manière permanente un plaidoyer suffisamment bien orienté. Je voudrais ici féliciter le fait que nous avons tout de même des programmes nationaux, comme celui de lutte contre la tuberculose, étendus dans toutes les 560 zones de santé de la République démocratique du Congo, avec des formations répétitives, etc. Les autres maladies, oui, nous avons un programme de maladies chroniques, étant donné que nous vivons aujourd'hui, nous, la transition épidémiologique. Il n'y a plus que les maladies infectieuses, mais nous sommes en train aussi d'évoluer avec ces maladies chroniques respiratoires, notamment à cause de l'urbanisation qui est tout à fait anarchique dans nos pays et l'exposition aux nuisances respiratoires de tout genre.
Merci beaucoup, professeur Jean-Marie Kayembe. Et j'ai envie de dire à la RDC bravo, puisque on a entendu ce matin dans les journaux de RFI que la dernière épidémie en date d'Ebola s'était terminée. Professeur Kayembe, ça, on dit un ouf de soulagement à chaque fois qu'une épidémie est derrière nous.
Merci beaucoup. C'est tout le monde entier qui s'est réjoui d'apprendre qu'une épidémie se termine. Vivement la fin de Covid-19, avec lequel, évidemment, malheureusement, nous devons apprendre à vivre. Je vous remercie pour avoir pensé à mon pays dans ce sens.
C'est bien normal, parce que si on pouvait s'en débarrasser, ce serait vraiment une chose merveilleuse. Merci beaucoup, professeur Kayembe. On retrouve pour la conclusion de notre échange, toujours dans Priorité Santé, on vous retrouve, professeur Housset. On a entendu le professeur Kayembe à Kinshasa souhaiter davantage d'efforts, bien sûr, pour travailler sur la santé des poumons. C'est un enjeu de santé publique, cette BPCO, on l'a bien compris. On est au mois de novembre, mois sans tabac en France. On l'a dit tout à l'heure, importance de cette volonté, jamais trop tard pour prendre sa décision, pour arrêter de fumer. On le dit encore une fois, quand On n'a pas pris d'ailleurs la décision. Peut-être aller voir un médecin pour en parler, professeur Bruno Housset, pour peser le pour et le contre, pour discuter justement de toutes ces bonnes raisons d'arrêter.
Oui, c'est extrêmement important de pouvoir en parler, parce que cette maladie, la BPCO, vraiment impacte de façon extrêmement importante. On n'a pas parlé des conséquences professionnelles. Mm-hmm. C'est que dans sa profession, on peut être extrêmement gêné par cette BPCO. Ses conséquences familiales, c'est-à-dire que les rapports avec son entourage peuvent se modifier du fait de cette maladie. On n'arrive plus à suivre. Mm-hmm. Et donc, vous voyez, c'est vraiment extrêmement important de prévenir, d'identifier précocement. J'aimerais revenir sur un point qui est le repérage précoce et la spirométrie. Maintenant, il existe des mini-spiromètres électroniques qui permettent quasiment sur son téléphone portable d'enregistrer la fonction respiratoire. Mmh. Le point important, c'est la formation, car on ne mesure pas le souffle comme on mesure la tension artérielle.
Professeur Housset, hélas, il y a une déconnexion de nos systèmes de liaison. On vous a perdu, Bruno Housset. On a bien compris que vous étiez en train de nous dire qu'il y avait des méthodes plus légères pour prendre ces repères au niveau respiratoire. Désolé vraiment pour cette interruption sans avoir pris la peine de vous saluer. En tout cas, on vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions. Et juste avant de retrouver le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, pour sa chronique, des tours en 1987 avec Sting, Englishman in New York.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
L'activité physique dans Priorité Santé, c'est tout de suite avec vous, Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Docteur Sen, médecin du sport, aujourd'hui vous allez nous parler du gainage pour nous aider à avoir un corps ferme. Alors d'abord, simplement, définition, le gainage, qu'est-ce que c'est ?
Le gainage, ou le core stability, hein, si on veut parler anglais, c'est le fait de renforcer les muscles profonds du tronc. Et ça, c'est particulièrement important parce que ça va relier, ce tronc relie le buste et bien sûr le buste, les membres supérieurs et les membres inférieurs. Et ça va être particulièrement, il va y avoir des effets absolument bénéfiques, notamment pour la performance. Alors, ces muscles profonds, c'est quoi ? Ce sont des muscles qui sont courts, qui sont collés au squelette véritablement et qui assure une fonction de maintien. Alors quand on dit collé au squelette, c'est par exemple des muscles très courts comme ça, collés aux vertèbres entre elles et qui permet justement de maintenir la colonne vertébrale. Alors on se rend compte que souvent on a notre mode de vie actuel, et bien on démuscle ces muscles profonds en quelque sorte parce que ils sont délaissés, parce qu'on est plus souvent sédentaire, on bouge moins, on est devant un écran au travail, il y a le télétravail aussi. On se ramollit, exactement. Et finalement, renforcer ces muscles profonds, c'est exactement le fameux tiens-toi là des grands-mères qui disaient tiens-toi droit, c'est ça, parce qu'ils avaient comme ça une musculature de posture, une musculature profonde, beaucoup plus développée que la nôtre.
Imaginons qu'on porte quelque chose sur la tête pour
exactement
se tenir bien droit.
Exactement.
Alors, c'est bon pour le corps, mais aussi ça fait du bien, pourquoi ?
Ça fait du bien d'abord mécaniquement, parce que comme on vient de le dire, ça maintient la colonne vertébrale, et donc ça va permettre de réduire les contraintes mécaniques sur cette colonne, et protéger les disques intervertébraux, les articulations, mais aussi éviter l'arthrose. Donc ça, c'est la première chose qui est intéressante. Deuxième chose, c'est que ça améliore les performances sportives. Parce que, évidemment, lorsqu'on va faire des impulsions, on va y avoir un transfert de force entre les membres inférieurs et les membres supérieurs, ou inversement. Et ça, il faut bien qu'entre les deux, le tronc, soit musclé pour pouvoir faire ça, et donc exécuter des gestes sportifs, finalement, avec plus de force. Et puis, le troisième effet intéressant, c'est l'effet métabolique. C'est-à-dire que ces muscles profonds sont faits surtout de fibres lentes, qui ont tendance à consommer plus la graisse, le gras, que le sucre. Et donc, ça, c'est particulièrement intéressant sur le plan métabolique.
Alors, on a compris pourquoi il faut être bien gainé. Maintenant, comment ça se passe ? Tout simplement, comment faire un bon gainage, docteur Sen ?
Eh bien, il faut commencer par évaluer son niveau de gainage. Pour ça, on peut faire un test simple. On se met en position de planche. On est en position de pompe, sur les avant-bras. On garde un bon alignement du corps en évitant de creuser le dos. Et on maintient la position le plus longtemps possible. Alors, grosso modo, pour avoir un ordre d'idée, moins de 30 secondes, c'est pas terrible, le gainage n'est pas terrible, entre 30 secondes et 1 minute, c'est moyen, une et 2 minutes, c'est un bon gainage, et plus de 2 minutes, c'est un excellent gainage. Après, on va se servir justement de ce test pour pouvoir calibrer en quelque sorte les exercices qu'on va faire. On va prendre ce temps de maintien, donc, et on va le diviser par 2. Et on va faire l'exercice, la moitié du temps, 3 à 5 fois, c'est-à-dire que, par exemple, si on a tenu 40 secondes, on va faire 3 à 5 répétitions de 20 secondes pour pouvoir faire cet exercice. Alors, l'exercice, c'est l'exercice de la planche, c'est celui qu'on vient de décrire, face contre terre, le ventre bien rentré, on continue à respirer, ça c'est très important de respirer toujours pendant cet exercice, et puis tout cela va nous aider à travailler la sangle abdominale, et puis on peut même varier en se mettant tantôt sur le côté droit, tantôt sur le côté gauche, et ça c'est très intéressant. On peut faire la banane aussi, ou Superman.
Expliquez, alors là, parce que là, ça devient un petit peu compliqué. Hein.
Cette fois-ci, on est sur le ventre. On est sur le ventre et on met les bras derrière la tête et on va relever simultanément le haut du corps et les jambes.
Oui.
Alors ça, on fait une banane.
On voit bien
voilà.
Le sourire, oui.
Voilà. Et puis, la deuxième chose, le Superman, on fait quasiment la même chose, mais cette fois-ci, on a les bras tendus vers l'avant et on relève les bras, et les jambes en même temps. Voilà, normalement, avec tous ces conseils, nos auditeurs devraient avoir leur abdos en béton.
En béton, on leur souhaite, c'est le meilleur pour eux. Merci beaucoup, docteur Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport et tous ces conseils, vos conseils santé, on les retrouve sur votre blog Jean-Marc Sen, tout attaché en minuscules, jeanmarcsen.com. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est Toussaint Maquet, Louise Calédec, Didier Bleu et Laurence Nau. Demain, émission spéciale Jeunes Auditeurs, nous parlerons des secrets. Faut-il les cultiver ou à l'inverse, faut-il s'en méfier ? Les secrets, trésors ou poisons ? À demain, d'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.